On voulait parler du jour de la Terre. On a pour beaucoup parlé d'environnement hier avec nos invités. Je vous parlais de demain, le Québec et tout ce qu'il y a en matière d'innovation, d'initiative citoyenne aussi pour faire en sorte que le Québec soit un peu plus vert, un peu plus écolo. On a passé une heure sur la voiture électrique. Alors, vous voyez comment qu'on essaye fort ici à cette émission. Effectivement, ce dimanche 22 avril, ce sera le jour de la Terre, une occasion donc de célébrer à travers le monde la planète par l'action. C'est un peu ça le message. En même temps, quand on regarde notre planète, hier encore, je faisais plein de recherches pour essayer de voir où c'en était. On parle de... Les titres sont assez incroyables. Hécatombe catastrophique de coraux dans la Grande Barrière australienne. Le fleuve Saint-Laurent qui est assez pollué, où même les poissons deviennent stériles à force de manger et de boire ce qui sort de notre usine d'épuration des eaux. Et là, bon, en même temps, le Jour de la Terre propose de s'attaquer au problème du plastique dans l'eau, dans l'océan, mais dans notre fleuve. Il y a effectivement plusieurs activités qui vont être organisées au Québec. On va vous en parler. Pour discuter de tout ça, on a fait venir Amélie Côté, qui est une spécialiste qu'on aime bien en gestion des matières résiduelles. Elle est blogueuse à briquesabac.com et elle a commencé, elle, une initiative personnelle qui est bien intéressante. Elle a décidé de se passer de plastique. Merci d'être là, Amélie.
Merci, ça me fait plaisir.
Alors, Juillet sans plastique, c'est ça?
Oui, en fait, Juillet sans plastique, c'est à la base une initiative australienne.
Ouais.
Parce qu'évidemment, avec toutes les côtes, tous les océans qui sont autour de l'Australie, c'est un enjeu particulièrement important pour eux. Et ça invite les gens à s'engager pendant une journée, une semaine ou un mois à essayer de limiter, voire de ne pas utiliser de plastique à usage unique. Puis effectivement, quand j'ai lancé Bric-à-Bac en 2015, au mois de juillet, ça a été l'occasion pour moi de tester ce défi-là. Et c'est tout un défi, je dois le dire.
Alors, raconte-nous comment t'as fait.
Dans le fond, c'était de prendre conscience de l'omniprésence du plastique dans ma vie, puis c'était beaucoup, en fait, au niveau alimentaire. Hein, c'est généralement les emballages dans la cuisine, là où le bas blesse. Donc, j'ai appris beaucoup à reconnecter avec le savoir-faire, cuisiner davantage, acheter en vrac. Donc, c'était plein de belles expériences. Je dois avouer aussi qu'un bon défi au mois de juillet, c'est que souvent, c'est le mois des vacances. Donc, ça impliquait pour moi d'aller dans un festival, faire du camping pendant deux jours.
Et là, t'amènes des bouteilles d'eau. Normalement, t'apportes des bouteilles d'eau en plastique. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là?
Là-bas, il y avait accès à de l'eau quand même. C'est au festif de Baie-Saint-Paul. Généralement, ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'initiatives éco-responsables. Donc, j'avais ma gourde. Mais par exemple, pour la glace, j'ai mis de la glace dans un gros Tupperware. Puis, ça faisait comme un gros bloc de glace dans ma glacière. En fait, ça durait plus longtemps. Donc, certaines initiatives comme ça m'ont permis d'avoir de la nourriture pendant plus longtemps, de bien m'alimenter aussi.
Mais du Tupperware, c'est pas du plastique?
Oui, mais ça, c'est pas de l'usage. Dans le fond, ce qu'on essaye d'éviter, c'est l'usage unique. Et le Tupperware, on peut le réutiliser vraiment plein de fois. Le défi, c'est vraiment par rapport aux objets du quotidien, par exemple les pailles, les ustensiles, donc tout ce qui est jetable, qu'on dit.
Sur les pailles, d'ailleurs, aujourd'hui, on dit qu'on va probablement les bannir.
En fait, c'est ce qui a été décidé, qui est en cours d'étude en Grande-Bretagne.
C'est ça? Et les donc, cotons-tiges également?
Oui, c'est ça. Et puis les bâtonnets de plastique. Donc, eux, ils envisagent de faire une loi par rapport à ça. Nous, plus près de chez nous, à Montréal, on a la loi pour le règlement sur le bannissement des sacs de plastique là, qui vient d'être mis en place. Donc, depuis le mois de janvier, il est effectif. Puis à partir de juin, en fait, tous les détaillants vont devoir s'y conformer, faute de quoi ils auront des amendes s'ils continue à distribuer des sacs à usage unique.
Mais tu ne trouves pas, Amélie, qu'on est un peu... Quand j'ai vu ça, c'est pas chez nous, c'est au Royaume-Uni, là, mais bannir les pailles et les petits bâtonnets en plastique des cotons-tiges, moi, je veux bien là, qu'on... Il n'y a pas de petit effort, mais en même temps, on est un peu hypocrite pareil parce qu'on continue de permettre à des industries de tout nous mettre dans des plastiques. Là. Tout est emballé en plastique de ce qu'on achète, là.
Effectivement, c'est vraiment une combinaison d'actions qui va permettre de le faire. Donc, oui, peut-être de la législation pour certains objets dont on a plus de difficultés à se débarrasser, mais en même
vraiment,
temps...
C'est vraiment, là, on voit la paille, effectivement, mais on voit pas la poutre en plastique.
Effectivement. L'enjeu pour les pailles puis les petits objets en plastique, c'est qu'ils ne sont généralement pas acceptés dans le bac de récupération, donc ils ne sont pas recyclables en tant que tels. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on décide de s'y attaquer spécifiquement. Mais, effectivement, l'enjeu est beaucoup plus large. On parle de dans notre quotidien, les contenants et emballages qui sont consommés. Pour donner une idée, au Québec, le taux de récupération du plastique à domicile, c'était 31,7% selon la dernière étude qui a été réalisée à ce sujet. Mm-hmm. Et pour les sacs et pellicules de plastique, c'était 14%. Puis quand même, on consomme 80 000 tonnes de sacs et pellicules de plastique par année. Donc,
on est en qui, là?
Les Québécois et les Québécoises.
Juste au Québec?
Juste au Québec.
80 000 tonnes?
Oui. C'est quand même énorme. Puis si on regarde, là, bon, à l'échelle mondiale, une étude qui a été publiée le 22 mars dernier disait que la production mondiale de plastique dépasse 320 millions de tonnes par année. Oh. Donc, c'est assez énorme. Donc,
écoute, c'est un continent.
Ouais,
c'est un continent qui flotte. C'est fou pareil, là.
C'est ça. Ben, en fait, j'ai parlé à une personne qui est allée étudier ce continent-là.
C'est vrai?
Oui, parce que, en fait, comment ça fonctionne? C'est des vortex de plastique qu'on appelle. Donc, c'est là où les courants marins se rejoignent. Ouais. Eh bien, ça transporte le plastique et tous les déchets à un même endroit. Donc, c'est pas un continent solide en tant que tel.
Non, c'est plus
qu'une genre de soupe de plastique, là, me disait la personne que j'ai rencontrée.
Mais qui est délimitée, là. C'est comme tout, effectivement, c'est les courants qui amènent. C'est un peu comme dans nos lacs ici, quand il y a des courants. Des fois, si tu as ton chalet sur le bord d'un lac, tu te ramasses avec plus d'algues ou plus de cochonneries parce que ça se retrouve dans un certain endroit. Ben là, c'est un peu la même chose dans l'océan.
Oui, c'est
Mais
ça.
C'est quand même un immense... C'est comme un continent. L'image du continent, c'est que c'est sur une grande surface.
Oui, c'est ça. C'est trois fois la taille de la France. On parle dans celui qui est entre la côte ouest du Pacifique puis Hawaï. Donc, mais là-dessus, il y a quand même une initiative qui est en cours. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Le jeune avec son bateau, là?
Oui, exact. Oui, le Ocean Cleanup.
Oui, c'est génial, ça.
Oui, donc, il pense lancer le premier déploiement d'un système de récupération des plastiques dans les océans cette année. Donc, ils vont le tester à grande échelle. Puis la personne avec qui j'avais parlé, en fait, avait été échantillonnée, ça, pour le Ocean Cleanup, pour, en fait, comprendre un petit peu la composition de ce continent de plastique.
Est-ce que c'est du plastique chinois? Est-ce que du plastique indien? Ça vient d'où, tous ces... Les gens me posent cette question. D'où vient tout ce plastique qu'on a dans nos océans, ou même, à la rigueur, le fleuve Saint-Laurent, là?
Ben généralement ça peut être des choses qui sont laissées dans la nature. On pense aux berges dans un premier temps, mais des choses un peu surprenantes comme les mégots de cigarettes par exemple. Mm-hmm. Donc oui, on en jette parfois par terre et ça, ben si avec l'eau par exemple, s'il pleut, ça va dans les égouts. Donc ça peut se retrouver éventuellement dans les océans. Puis en fait, selon un nettoyage qui a été réalisé par la World Wild Fund, c'était un des principaux déchets de plastique. Les botches de cigarettes au Canada. Donc, ils en ont ramassé dans ce nettoyage-là en 2017 244 734 mégots sur le bord des berges. Et puis, les mégots, en fait, un des moyens, c'est de les mettre aux poubelles plutôt que de les jeter par terre. Et même à Montréal, au centre-ville, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des nouveaux cendriers qui ont été installés. C'est le projet Mégo Zéro qui récupère et même envoie pour se faire recycler les mégots de cigarettes.
Mm. J'ai-tu le droit de dire qu'il y a du monde qui ne savent pas vivre, qui garoche encore leur botch?
Je pense que des fois, c'est aussi peut-être...
Ah, moi, ça me... Ça, là, ça fait mal. J'en vois régulièrement. Ici, à Place Bonaventure, tu sais que ça. Bon, on rentre au bureau, pftoum, puis ça t'envoie de botch dans la rue, là. Ou des fois, il manque la rue, il pogne le trottoir. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai envie de leur dire, hey, you, qu'est-ce que tu fais?
C'est sûr que c'est étonnant de voir
c'est
que
c'est... C'est étonnant, Emily, effectivement.
Oui, qu'en 2018, encore des gens jettent les mégots par terre. Mais il faut comprendre que dans ça, justement, il y a des composantes de plastique. Il y a également tout plein de produits chimiques. Donc ça, ça vient polluer, évidemment, les eaux, même si c'est pas... On le voit pas à l'œil nu.
Il y a du plastique là. Ben, en fait, c'est dans la partie qu'on se met dans la...
Dans le filtre.
Oui, dans le filtre, c'est ça.
Ouais. Donc, il prend...
Question pour toi ici, Michel, qui est intéressé. Là, tout ce plastique là, qui va passer dans ce jeune... Effectivement, il y avait un article dans Paris Match fascinant là-dessus. C'est un jeune qui a donc développé...
Boy and Slat.
Voilà, qui a développé comme un système qui va faire que le plastique va être récupéré, puis il va le recracher sous une autre forme, c'est ça?
Ben, je pense que, en fait, le système en tant que tel, puis c'est vraiment une équipe, ouais, une grosse équipe qui travaille là-dessus parce que c'est un projet particulièrement complexe, mais dans un premier temps, c'est d'aller récupérer le plastique, puis après ça,
de le compresser, je pense, ou d'en faire d'autres choses.
Ouais, c'est ça. Ben, de voir, parce que il va y avoir toutes sortes de types de plastique, donc de voir quels sont les débouchés. Est-ce que ça va être nécessaire, par exemple, de les trier par type de plastique pour trouver des débouchés pour chacune des composantes qui se retrouvent dans les océans. Donc, je pense qu'il va y avoir plusieurs étapes après la récupération du plastique, comme ici au Québec ou dans les autres municipalités. On envoie nos matières au centre de tri, elles sont triées par type de plastique. C'est envoyé après chez un conditionneur qui met la matière en forme pour être recyclée par la suite. Donc, il va y avoir probablement tout un processus là, pour pouvoir réintégrer ça dans un...
Mais c'est intéressant, en tout cas, comme initiative. On va s'arrêter ici. Amélie Côté est avec nous, elle est spécialiste en gestion des matières résiduelles. Elle est blogueuse à briquesabac.com. Allez voir ce site, c'est vraiment très, très éducatif. On revient avec vos commentaires. Et seriez-vous capable de dire, OK, mais là, je fais un défi, plus de plastique pendant, mettons, quoi, un mois? On fait ce défi-là? Je vais vous demander ça. 514-790-9850, sans frais, 1-866-790-9850.
Les microbilles.
Oui. On parle des microbilles avec mon invitée Amélie Côté parce qu'on était en train de se raconter pendant la pause que effectivement maintenant dans les même dans les produits comme les mousses pour le visage, les crèmes, je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris. Puis nous on achète ça parce que c'est disponible, j'imagine.
Parce qu'on n'en a pas nécessairement conscience non plus.
C'est
les microbilles de plastique.
On nous dit
pas.
C'est bon, ça va faire comme un, je sais pas,
un effet exfoliant,
voilà,
par exemple.
Mais ça se ramasse dans le fleuve.
Effectivement, puis ça se ramasse aussi dans nos systèmes parce que si on peut en retrouver également dans le dentifrice. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de l'été 2018, le Canada va interdire les produits de toilette avec des microbilles de plastique. Bon. Donc, on va au moins régler le problème à la source.
Donc, ça aurait été une tendance de courte durée. Nous avons Pierre qui m'appelle parce qu'il y a une bonne idée. Il a conçu un appareil. Pierre, bonjour. Apparemment, pour remplir de lave-glace notre véhicule à la pompe, comme ça, on n'aurait plus besoin d'acheter les fameux bidons de plastique qu'on consomme chaque année. Puis vous évaluez qu'on en consomme 25 millions, Pierre?
Oui, juste à peu près 25 millions. En fait, ça peut varier d'une année à l'autre parce que les hivers et les conditions météo font qu'on n'en consomme pas toujours la même quantité par année. Mais en fait, le constat est simple. Il y a à peu près 5 200 000 véhicules immatriculés au Québec. Mm-hmm. Si on fait un calcul rapide par année, est-ce qu'on pourrait consommer 4 à 5 bidons?
Minimum.
Voilà. Fait que vous avez votre réponse.
Vous avez conçu un appareil, un système. Expliquez-moi ça vite. Là, ça ressemble à quoi?
Oui, en fait, c'est un appareil qui est comme une pompe à essence. Le concept de base était d'essayer de faire comme une pompe à essence puis d'être en mesure de remplir votre véhicule de lave-glace et en payer le prix au millilitre comme une pompe à essence. Et le défi a été de taille pour faire un appareil certifié Mesure Canada parce qu'on peut pas vendre du liquide au millilitre au consommateur si on n'a pas un appareil certifié Mesure Canada. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le concept qu'on a fait n'existe pas nulle part en Amérique du Nord.
Mais là, l'avez-vous mis au point? Est-ce qu'on pourrait avoir ça bientôt? Parce que moi, je trouve que l'idée est vraiment très bonne.
On en a 17 d'installés actuellement. On a en un an, on a plus de 10 500 transactions.
Wow.
On a passé à peu près 40 000 litres, ce qui est très peu par rapport aux 80 millions de litres qu'on consomme par année. Mais quand même, le concept est éprouvé, ça fonctionne très, très bien.
Et où est-ce qu'on peut savoir où sont les 17 recharges de lave-glace que vous avez mises?
Mais en fait, l'appareil s'appelle la station lave-glace. Donc, on a un site web qui est stationlaveglace.ca où est-ce qu'on a une map, où est-ce qu'on a géolocalisé les différents endroits. Puis, on a une page Facebook aussi, Station lave-glace, où les gens passent plusieurs commentaires et on peut voir la map aussi.
Puis, êtes-vous, le prix là, du lave-glace est concurrentiel?
Oui, on est moins cher que le prix du bidon en station-service qui varie... plus ou moins 4,50 $ à 5 à 6 $ parfois. Nous, on est sous les 4 $.
Ah ben bravo. Pierre, je vais aller essayer votre affaire. Je vais aller voir ça. Station lave-glace en page Facebook ou sur le web, bien sûr. C'est une belle initiative. Amélie, vous en pensez quoi?
Ben en fait c'est une super initiative pour réduire donc ça fait partie des nombreuses initiatives qui existent pour réduire la consommation de plastique. C'est sûr que l'achat finalement ça revient à de l'achat en vrac, de lave-glace,
ouais.
Mais pour un produit un peu inhabituel.
Il fallait y penser pareil.
Effectivement, puis ouais. c'est relativement complexe comme vous l'expliquiez. Donc ouais. Mais je crois qu'il y a une belle réceptivité là de la part des clients.
On veut faire notre effort. Je pense qu'on est tous conscients de ça. En tout cas, mes auditeurs sont bien bons là-dedans. Bonjour Jean. Jean, êtes-vous là?
Oui, vous m'entendez?
Ben, je vous entends, oui. Là, maintenant. Allez-y.
Okay. Oui. Excusez, je suis au volant, là.
Pas de problème.
J'ai une main libre, pas de danger.
OK.
Je me demandais juste pourquoi il n'y a pas de consignation, comme pour les bouteilles.
Ah,
les bouteilles de vitre, les bouteilles de bière, les bouteilles de plastique, ces choses-là, les contenants, justement, de la vitre. Ça, on payerait plus cher, mais ça forcerait les gens à les ramener.
Ouais, bonne idée aussi, ouais.
Effectivement, les systèmes de consignation en ce moment sont seulement en place pour les bouteilles de bière et de boissons gazeuses, mais certaines industries peuvent décider de le faire elles-mêmes. Donc, par exemple, pour des contenants de lait, pour certains types de contenants, les entreprises peuvent mettre ça en place comme système alternatif à la collecte sélective. Donc, ça peut être un modèle intéressant.
Ah ouais, ben super. Mais je pense que les gens justement, ils veulent comme Jean, comme Pierre, il y a Paul qui m'écrit, on veut aussi nous participer à cet effort-là. Pas besoin d'être membre de Greenpeace, même si je voulais absolument le dire à mes auditeurs avant de partir. Il y a une trousse d'action pour un futur sans plastique qui a été faite par Greenpeace. Sincèrement, là, c'est très bien fait, Amélie, vous êtes d'accord?
Oui.
Il y a plein d'informations. Il y a même des informations qui peuvent être utilisées même dans vos écoles par les enseignants. Pour les 12 ans et moins, il y a des informations pour les 13 ans, 12 ans et plus. Parlez-en avec vos jeunes aussi. Il y a une discussion à la maison là-dessus. Puis on essaye de faire un effort, mais en tout cas, je m'engage en ce jour de la Terre à venir dimanche à faire un effort pour en utiliser, surtout acheter moins de plastique. Moi, j'ai un effort à faire sur les bouteilles d'eau, vraiment. Vraiment. Alors,
c'est
Amélie,
un défi,
vous êtes un modèle, Amélie.
Merci. Alors, puis il y a tout plein d'événements pour le jour de la Terre, je le rappelle, notamment des courses aux déchets dans plusieurs quartiers de Montréal, au Parc Jarry, Hochelaga, dans le Myland, Parc La Fontaine, Sud-Ouest.
Ça va être sur votre site, Bric-à-Bac.
Et ça va être sur ma page Facebook, Bric-à-Bac.
Merci à l'équipe. Merci, Amélie, d'avoir été là. Merci à mes recherchistes, Isabelle Laure, Normand Gemme. Merci à Jean-Christophe Ouellette, qui est notre producteur de cette émission. Merci surtout à vous. Ça a été une super belle semaine. On a-tu eu du fun? On refait ça lundi, 10h. Bye tout le monde.